Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine.
Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Dans un monde où la médiocrité est brandie en étendard, où le public a toujours raison et les critiques toujours tort, dans un univers faisandé où l'on évoque en guise de justification la nullité, la crédibilité de l'élan populaire, 5 justiciers ont décidé de refuser la dictature de la connerie. Des mercenaires qui se présentent à vous aujourd'hui à visage découvert, ce sont les journalistes du magazine Focus Vif. Toutes les deux semaines, ils se réunissent pour discuter de l'état de la culture, pour évoquer ce dont tout le monde parle, à raison ou à tort. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Laurent Raphaël, le rédacteur en chef du magazine L'Homme, pour lequel le Stabat Mater de Lorosa sonne comme une lambada. Bonjour Laurent.
Je vous salue Myriam.
Avec Laurent Aubrex, journaliste en musique et le meilleur avocat que le diable ait jamais connu.
Majesté, mes hommages.
Moi de même, avec Julien Broquet, surnommé dans le milieu Julien Roquet, lui aussi spécialiste de la musique.
Quelle présentation, salut Myriam.
Quelle imagination. Et enfin, avec Isaline Parisis, journaliste littérature chez non manquant entre François Sagan et Sailor Moon. Bonjour Isaline.
Salut Myriam.
Un petit peu malade aujourd'hui.
Un petit peu, oui.
On va essayer de tenir jusqu'au bout quand même. Hein. Dans le collimateur de l'émission Focus Store, il y a cette fois un film populaire de Régis Roissard, un disque, le dernier Rihanna, un bouquin Némésis de Philip Roth et une série The Howard. Je vous propose de débuter par le film, le premier long-métrage de Régis Roissard, populaire, avec Romain Duris et surtout avec Déborah François, révélée par les Dardenne dans L'Enfant, et aujourd'hui consacrée par ce populaire qui devrait achever d'en faire une star. Populaire, c'est l'histoire vintage de Rose Pamphile, apprentie secrétaire catastrophique, dont l'unique talent est une incroyable dextérité pour taper à la machine. Son patron décide d'en faire un poulain de compétition sur ce terrain-là et de la dresser à devenir la dactylo la plus rapide du monde. Les concours vont s'enchaîner et la L'amour va s'inviter dans la compétition. Voilà donc pour le scénario qui peut quand même tenir sur un timbre-poste d'un film d'un ennui absolument mortel. J'ai d'ailleurs voulu faire une petite sieste dans le cinéma pour abréger mes souffrances. J'avais même préparé ma veste comme oreiller. Et en fait, la seule chose qui m'a retenue, c'est la crainte de me réveiller trop longtemps plus tard pendant le film suivant et donc de perdre la moitié de ma journée parce que j'avais beaucoup à faire ce jour-là. Les acteurs font le boulot, donc il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là, mais le scénario est tellement cousu de fil blanc, les dialogues sont tellement plats, les situations tellement convenues que je vous avoue que je ne comprends absolument pas l'engouement populaire pour ce film. Un film qui cartonne, peut-être. Allez-vous pouvoir me renseigner à ce sujet ? Julien Broquet, qu'en as-tu pensé ?
Wow, j'ai trouvé ça pas bien méchant, mais mes vins est terriblement insignifiant. L'engouement, je ne sais pas par quoi je l'explique, peut-être par la folie pour l'instant, pour les années 50, j'en sais rien. Quoi. Je vois pas grand-chose d'autre, en tout cas, parce que ce côté comédie rétro, Rocky au pays des dactylos, parce qu'il y a un peu de ça, hein, l'entraînement, les tonnes d'entraînement à la Rocky. Puis, ouais, Amélie Poulain, la sucrerie, enfin, ce concours de frappe sur machine à écrire, ça me dépasse, grosso modo. Mais ouais, enfin, dans le genre, je sais pas, Osons, Genet, enfin, ça fait plutôt un mélange des deux, mais pour nous faire une espèce d'Amélie Potiche qui est totalement irritante. Et ouais, les acteurs, comme tu dis, sont bien tous les deux. C'est gentil. Je trouve que l'univers est encore relativement sympa, mais je trouve ça totalement vide, en fait.
Mais c'est bien mon avis aussi, Julien. C'est très bien.
On est d'accord.
Isaline.
Oui, c'est vrai qu'au-delà de cette esthétique très appuyée, très acidulée de pub un peu pastel, on a un peu l'impression d'ouvrir une bonbonnière. Moi, personnellement, ça m'a très vite écœurée, mais au-delà de ça, et ce qui est sans doute ce qui propulse le film comme une sorte d'étendard du film anti-crise, un peu rose, un peu réjouissant, je trouve le film sans grand intérêt cinématographique. Alors, c'est vrai que la grande idée de Régis Roissard, il s'en est pas caché, c'est ses championnats dactylo, et je crois qu'il a vu un jour un reportage là-dessus, ça l'a complètement fasciné, et on sent que voilà, tout le film est dirigé là-dessus, et que cette scène, la première scène de championnat de dactylo, c'est une sorte de climax comme ça, esthétique, sonore, dramatique, la caméra tourne, les filles s'évanouissent et tout, enfin, on sent que c'est vraiment vers ça que tout est dirigé. Alors, une fois que le premier championnat est fini, on se dit, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer maintenant?
Réponse pas grand-chose,
et on sent que le réalisateur se pose aussi la question, et le film s'étire dans le souvenir souvenir de ça avec manche après manche, comme ça. Moi, à un moment donné, je peux pas vous dire, j'en avais complètement. Je pouvais plus voir un clavier en peinture. Je trouve qu'on ne fait pas un film sur une seule scène. Alors, je trouve que les intrigues secondaires sont complètement affligeantes, avec Bérénice Bejo, avec le fils Bedos. Enfin, vraiment,
oui, ça n'a pas énormément d'intérêt.
Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je trouve que finalement, oui, c'est sans doute un film qui, voilà, qui marche sur cette explosion de couleurs. Et c'est très paradoxal, parce qu'en fait, moi, je l'ai trouvé d'une très, très grande fadeur. Si vous voulez, c'est exactement à l'image de cette scène où on dit à Rose, où Duris lui dit, voilà, il va falloir que que des nuits entières, tu tapes des romans pour ton entraîner. Alors il lui dit, tu n'es pas obligé de comprendre en fait, donc tu tapes des romans de Flaubert, etc., mais tu t'intéresses pas au contenu, c'est pour la forme uniquement. Et je trouve que c'est vraiment à l'image du film qui est en fait, qui s'agite beaucoup autour d'un centre vide, cette histoire d'amour sans aucun intérêt, à laquelle on croit pas une seule minute, qui s'étire, qui est sans cesse reportée, qui m'a personnellement à aucun moment fait vibrer. Je trouvais ça très très long.
Laurent Houbrex, je pense que toi t'as bien aimé, non? L'avocat du diable.
Non, la seule chose que moi je reprocherais à l'IA, la limite, c'est que le réalisateur va pas forcément au bout de sa fantaisie, je trouve. Moi, j'aime vraiment pas le côté années 50, image d'Épinal, le rose bonbon. C'est vraiment, je commence vraiment à en souper. Je trouve qu'on voit ça un peu partout.
Oui.
Ça
me, parce que Rose, évidemment, est habillée en rose. Hein.
Elle s'appelle Rose. Enfin, déjà, c'est quoi Rose
en fil.
En fil. Donc tout ce côté années 50, rose bonbon, moi, ça me gave, sérieux. Et bon, là, je trouve qu'en l'occurrence, on passe un bon moment. Je sais pas s'il faut aller chercher beaucoup plus loin. Enfin, moi, j'ai pas forcément tous les codes pour lire ça autrement.
Je trouve que dans la reconstitution, c'est très bien fait, mais c'est un peu vide. Et ça aurait été bien d'y ajouter un peu d'humour dévastateur, comme dans un OSS 117, où là aussi la reconstitution est très bonne. Ici, je trouve qu'au niveau des dialogues, par exemple, c'est extrêmement neutre, en fait. C'est pas drôle. C'est présenté comme une comédie, mais c'est pas drôle.
Il est enfermé dans la reconstitution de l'époque la plus fidèle possible, et du coup, il oublie un peu le fil narratif. Et tout ce qui faisait le caustique des comédies américaines des années 50, il est mis de côté, puisque les personnages sont obsédés par cette reconstitution. Donc voilà, le propos perd un peu de son sens, et c'est comme un beau vase qui peut être élégant à l'extérieur, mais qui creuse à l'intérieur.
Combien tu lui mettrais
5 sur 10, parce que je trouve pas ça scandaleux, mais c'est cette veine un peu vintage. Voilà, une belle décoration, point à la ligne, quoi.
Une veine. Hein,
voilà. Exactement.
Un jeu de mots très habile.
Puis c'est quand même un film sur un concours de dactylo, quoi. C'est quand même assez interpellant, je trouve. Enfin, ne serait-ce que par rapport à
rappeler aux jeunes qu'on utilisait des machines à écrire à l'époque.
Avec quand même cette seule idée dans le film de dire un peu, voilà, dans la vie, en fait, on peut être doué que pour une chose, mais alors il faut se donner à fond. Et du coup, Rose Pamphile, elle est douée que pour une chose, mais alors on le montre très très fort, quoi. Par exemple, elle peut même pas rouler à vélo, la fille, elle est quand même un peu scandaleuse. Dès qu'elle prend un dossier, elle le laisse tomber. Enfin, tout était quand même très très surligné. Je crois qu'à un moment donné, on a quand même compris, quoi.
Laurent Houbrex,
moi j'ai quand même mis un 6.
Oh, ouais, quel gentil.
Ouais, je suis gentil.
Julien,
un 4.
Isaline,
ben 4, oui.
Ben 4 pour moi aussi. Pour Déborah François, elle est pas mal.
Voilà.
Hein.
Si, je trouve qu'elle est vraiment parfaite.
Je n'en attendais rien et je trouve que.
Mais le personnage de Romain Duris aurait pu être davantage exploité, parce qu'il a des côtés sombres qui sont relativement intéressants, mais le réalisateur ne va pas jusqu'au bout et se contente d'emballer, de faire un beau paquet cadeau. Alors que là, il y a chez ce personnage provincial qui est enfermé dans ses préjugés, dans son refus du plaisir. Il y avait quelque chose à exploiter davantage, mais il aurait fallu quitter la veine des arts décoratifs pour aller vers quelque chose de plus psychologique. Mmh. Et voilà, ça c'est dommage, pour ça c'était un peu un gros loupé à ce niveau-là.
Il y avait aussi moyen sans doute d'interroger un peu plus la condition de la femme pendant cette période-là. Ça aussi c'est traité de manière super décorative et superficielle, quoi.
C'est juste pour dire, on l'a mis dedans, mais sans aucun fond, sans aucune volonté d'aller au-delà de simplement l'évoquer. Ok, comme ça en 2-3.
Avec quand même peut-être une belle scène d'amour, je trouve, sous les néons, là, dans l'hôtel.
Oui.
Parce que pour une fois, on échappe un peu au côté pastel et voilà.
Oui, c'est ça. Et ça me faisait penser un peu à l'enfer de Henri-Georges Clouzot, mm-hmm, avec Romy Schneider et tous ses habits de lumière. Ah, voilà, c'était mon name dropping du jour. On parlait donc de Populaire, le premier long métrage de Régis Roissart.
Fine light in the beautiful sea, I chose to
Et on poursuit en musique avec le nouvel album de Rihanna, dont on entend ici un extrait du premier single qui s'appelle Diamonds. Le disque, c'est Unapologetic et c'est là aussi un gros succès de masse. Il est numéro 1 aux États-Unis depuis sa sortie. On y retrouve des collaborations prestigieuses. Et là, je fais des guillemets avec mes doigts. On entend ainsi son petit ami passé et apparemment présent, le cogneur de gonzesse Chris Brown et le cogneur de conduit auditif David Guetta. Certains morceaux sont particulièrement horribles sur ce disque. Je pense par exemple justement à Right Now avec David Guetta ou encore au morceau d'ouverture Fresh Out de Runaway qui constitue quand même la BO idéale d'une après-midi en autoscooter à la foire des Nivelles. Ceci dit, il y a quand même quelques chansons à sauver dans le tas, essentiellement des ballades où Rihanna peut montrer ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire une voix quand même, un timbre paresseux et nonchalant de gros bébé gâté que je trouve malgré tout assez intéressant. Laurent Raphaël, le chef, est-ce que tu sauveras cet album ?
Pas vraiment, non. Je kiffe pas trop ce qu'elle fait, même contrairement à ma fille ado qui,
elle adore.
Qui est très branchée, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu une caricature du swag, pour utiliser un terme dans l'air du temps. Donc, elle aligne un peu tous les clichés du moment à travers des tatouages, en veux-tu, en voilà, à travers des coiffures pas possibles. C'est devenu un peu une marque et c'est un personnage assez intrigant malgré tout, au-delà de la musique que ouais, j'ai quand même du mal un peu à digérer. Elle me fait un peu pitié quelque part, parce que on sent comme ça une certaine espèce de pression, on la met dans une posture. Cette fille a démarré quoi, elle va avoir 16-17 ans, un album par an, et j'ai l'impression que sa vie lui échappe déjà complètement. Alors ça me rappelle un peu le destin funeste d'Amy Winehouse,
ouais.
dans un autre créneau, mais il y a quand même quelque chose dans le même esprit où cette fille va sans doute être cramée, ou si elle l'est pas déjà, elle est dans une surenchère marketing. On l'a bien vu avec la tournée ici organisée, promo organisée avec un Boeing rempli de journalistes. Enfin, je veux dire, cette fille, on se demande un petit peu, ça reste une intrigue, parce que débarrassée de tout le tralala avec ses interventions de Guetta et autres, j'ai l'impression qu'au fond, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant que ce qu'elle montre et que ce qu'on lui impose de montrer. Et je serais curieux d'une fois l'entendre dépouiller de toute cette mascarade et de toutes ces couches un peu rodentes et autres qu'on lui met pour essayer de séduire un public le plus large possible.
Et sur l'album maintenant en particulier,
ouais, j'ai quand même beaucoup de mal à aller jusqu'au bout, hein. Je reconnais une certaine efficacité au single par exemple, voilà, mais sans aucune ambition et sans aucune c'est un morceau qui passe, je veux dire, qui gêne pas, qui crisse pas à l'oreille, mais il passe et il disparaît aussi vite. Donc moi l'album, je trouve qu'il y a trop de choses, quoi. C'est une espèce de salmigondi comme ça de couches et de tout ce qui pourrait aujourd'hui plaire un public ado et du coup qui donne aussi un peu le là sur un genre R&B un petit peu facile. Donc moi ça me passe un peu au-dessus de la tête, mais je pense que le personnage est plus intéressant qu'il n'en a l'air.
Julien, moi je pense que tu as adoré ce
bien
titre.
Sûr, quoi.
Oui,
je pense
mais c'est
les trois pires quarts d'heure que j'ai passé cette année, quoi, grosso modo. Et je me souviens maintenant pourquoi j'écoute pas la radio. Je me souviens de plein de choses grâce à Rihanna. Non, mais c'est vraiment.
C'est pas que la radio, hein, parce que il suffit pas. Rihanna, elle est partout, quoi. Vous allez faire vos
oui,
courses,
dans les magasins de vêtements,
ouais,
voilà.
Exactement.
Il y a la musique
parfum,
de supermarché,
dans les bancs solaires aussi.
Discrètement. Ouais. Et puis il y a la musique de magasins de
tout
vêtements.
Fait,
et Rihanna,
oui.
C'est magasin de vêtements.
Exactement.
Et voilà, je vais pas dans les magasins de vêtements. Non, vraiment, je peux pas. Enfin, grosso modo. Et puis, on avait reproché un peu à Biolay la dernière fois tous ses guests et tout ça. Ici, bon, on est encore en plein dedans. Hein. Eminem, David Guetta, Chris Brown, c'est quand même fort. Quoi. Ouais. L'inviter sur son disque, le mec qui l'a laté. Quoi. C'est fabuleux. Quoi. Un grand message aux femmes du monde entier. Surtout qu'apparemment, d'après le magazine Time, en 2012, c'est l'une des personnes les plus influentes au monde. Quoi. Ben, ça me fait flipper.
Effectivement. Laurent Wex, mais toi vraiment, je pense que tu vas nous le sauver, cet album de Rihanna.
Mais c'est quand même une personne intrigante, et quand on s'intéresse à la culture pop aujourd'hui, c'est un personnage qui est devenu incontournable. Alors moi, ce qui m'intéresse justement, c'est, contrairement au chef, c'est les couches, c'est tout ce qu'elle met, c'est le spectacle, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour, Et là, je trouve qu'il y a justement déjà dans toutes ces couches quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est peut-être un grand mot, mais c'est là que ça devient intéressant à creuser.
Mais les couches, c'est pas vraiment elles. C'est son entourage.
Mais ça, on s'en contrefout. C'est vrai que c'est une marque.
Une fille qu'on est venue chercher quand elle avait 17 ans sur une plage de la Barbade où elle se baignait avec ses copains.
C'est pas Jay-Z qui l'a lancée
Oui, tout à fait. Ouais. C'est Jay-Z. Mais je pense qu'en même temps, elle n'est pas complètement dupe et qu'elle maîtrise justement assez bien le truc. Et ce qui est vraiment fascinant dans sa démarche, c'est le côté complètement pervers, je trouve, de la fille. Alors on peut juger d'une manière ou d'une autre. La musique, de toute façon, c'est pas une morale, donc elle maîtrise assez bien justement l'art d'un peu titiller tout le monde, titiller le bon goût d'abord. Hein, parce que, en effet, il y a quelques passages un peu. Oui, insoutenable, on peut le dire.
Oui, c'est vrai.
Ben, c'est vrai quand David Guetta s'en met. Au moins sur un titre sur deux, ça donne un peu mal au ventre. Pour le reste, il y a vraiment des trucs interpellants. Je trouve que pour une fille qui, en effet, est au centre de la pop culture, que tous les ados écoutent, elle propose une musique vachement dark, très sombre par moments. C'est vraiment pas le côté rose bonbon d'une Katy Perry.
On parle de pop porno.
Mm-hmm. Ouais, il y a un morceau Powered Up où elle a une voix complètement robotique, complètement désincarnée, qui est presque flippante, je trouve. Et donc, ce genre de musique-là fonctionne, que les gamines et même les gamins, enfin, un peu partout dans le monde, sont scotchés à ça. Je trouve ça assez interpellant et assez.
Mais c'est le reflet du côté sombre des ados, justement. Je crois qu'ils se reconnaissent pas mal en eux. J'avais lu qu'elle a tatoué sur son épaule jamais un échec, toujours une leçon, à l'envers pour le voir chaque fois qu'elle passe devant un miroir. C'est de nouveau un peu too much, quoi. C'est-à-dire, qui se tatoue des espèces de règles de vie comme ça sur le corps.
Et finalement, Laurent, ta fille, elle a fait ce fameux tatouage d'aigle sur la poitrine.
Je résiste. Ou alors, elle le cache très bien, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore là. Mais par contre, elle a son billet pour le concert.
Et tu vas devoir l'accompagner ou elle y va
sans toi ? Non, elle a pas. Oui, elle a passé l'âge. Je suis plus obligé de l'accompagner.
Ça devrait être intéressant.
J'avais fait Laurie à l'époque. C'est bon, j'ai devenu.
Laurent, tu l'as déjà vu en concert,
ouais,
Rihanna ?
Oui, complètement.
Et c'est bien.
Ouais. C'est de l'entertainment, mais super bien fait. De nouveau, avec ce personnage qui n'a pas une voix extraordinaire, mais qui en fait quelque chose, qui la maîtrise complètement et qui sait lui faire prendre des contours. La manière dont elle chante Diamonds, par exemple, avec ce truc complètement métallique dans le grain, est assez, pour moi, unique et fascinant. Le Nobody Business, le morceau là, avec Chris Brown, là, c'est vrai qu'il a clairement tollé. Hein, il suffit relire le rapport de police, c'est assez effrayant. Et donc, elle nous sort. C'est là qu'il y a le côté pervers, je trouve, qu'elle maîtrise parfaitement, qu'elle gère parfaitement, en fait. Elle n'est pas du tout innocente. Enfin, je crois qu'elle sait très bien ce qu'elle fait.
Ça peut être aussi vu comme un gros coup de buzz de se dire,
oui,
après, on s'est tapé dessus, maintenant on se montre ensemble et ça fait rêver les ados qui s'imaginent, ça y est, la réconciliation.
C'est un morceau.
Et ce côté saignant. Enfin, c'est
un morceau doublement paradoxal, déjà par le titre, quand on dit c'est pas vos affaires et en même temps, faire un morceau, il y a quelque chose de complètement contradictoire là-dedans. Et puis c'est un morceau tout le morceau le plus smooth de l'album, le plus cool, avec un petite touche de piano quasi house comme ça. Il y a un truc de complètement très très provocateur dans cette espèce de posture.
Oh Julien, j'adore te regarder pendant que tu rentres pas.
Non mais c'est pas, ouais, on est en train de se dire que c'est un album de producteur finalement, voilà, mais à côté de ça, elle chante, on est d'accord qu'elle chante pas spécial, enfin c'est pas elle a pas une voix hallucinante, tout ça, rien.
Mais là, on aimerait bien la voir finalement chanter d'une manière dépouillée pour avoir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à ce point-là parce qu'il y a toujours entre soit un vocodeur qui tu transformes la voix, soit une série de couches qui empêche de vraiment sentir ce qu'elle a, est-ce qu'il y a une perle dans sa voix ou pas.
Album acoustique bientôt, donc.
Ben, j'aimerais bien,
Pourquoi pas.
Ouais.
Je vais produire Rihanna par mes parents qui me disent « Oui, mais Céline Dion, elle sait chanter. » Vous voyez. Mais par contre, est-ce que ta chanteuse, là, elle sait... elle n'a pas à faire... c'est un peu le syndrome Lady Gaga aussi, qui se croit obligée de faire une balade au piano pendant ses concerts pour montrer que c'est une auteure et une chanteuse.
J'ai dit dans chanter, ce monde-là, pas crier.
Oui, mais dans ce monde-là de la pop, je pense que ce n'est pas forcément utile. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément obligatoire et ça n'est pas une preuve d'un quelconque talent. Je pense que dans ce rayon-là, dans le rayon de la culture R&B, pop, c'est pas forcément...
Mais c'est quand même un réflexe souvent dans le R&B d'allonger la sauce de manière parfois un peu extrême, quoi.
C'est une musique de producteur. Ouais.
Mais son talent, il est où à part dans le marketing? Alors, c'est une musique de producteur, elle a pas une voix particulière, on lui demande pas de chanter et de faire nécessairement une balade, mais sa voix là, moi,
on disait la même chose, ça me des Supremes ou des groupes de filles dans les années 60 quand.
Ah, on ouvre le livre d'histoire.
Ah, ces chansons ont du charme, quoi. Il n'y a pas la moindre once de charme ou de quoi. Enfin,
on verra, on verra plus tard.
Et comment ça va vieillir? Je me demande comment va vieillir cette musique aussi, parce qu'on parle des Supremes, on voit la façon avec laquelle ça vieillit et qu'elle nous touche encore aujourd'hui, sinon en 78.
En même temps, je pense que malgré tout, ça reste aujourd'hui, il n'y a pas énormément de musique qui se révèle moderne ou qui raconte quelque chose de l'époque. On est quand même fort dans le revival, un peu dans tous les sens, et là, on a une musique qui est très noire, très glauque peut-être, alors qui n'est pas toujours de bon goût, mais qui a le mérite d'être inscrit, je pense, qui raconte quelque chose un peu sur...
C'est vrai?
Oui, je pense.
Oh, c'est un frisson. Bon, je pense que toi, tu vas lui mettre 6 sur 10. C'est ce que tu lui as mis dans Focus.
Oui, parce que malgré tout, on est en train de juger un album et Rihanna, c'est pas sur les albums qu'elle doit être critiquée, je pense. C'est sur un autre plan. Hein. Donc, sur l'album en soi, rien que sur l'album, oui, un petit 6 sur 10.
L'autre, Laurent?
Moi, un 4.
Julien?
Un, parce que j'ai pris l'habitude de jamais mettre 0, parce que parfois quand on met 0, on a l'impression que ça n'a pas été coté. Oh, quand on met, il n'y a pas d'étoiles.
C'est gentil de ta part, vraiment. Moi, je lui mets 5, parce que quelques bouses, oui, c'est vrai, mais quelques machins efficaces. Je me suis même surprise à danser dans mon salon. Mm-hmm. Parce qu'à force de l'écouter, il y a un rythme qui s'imprime.
Ah ouais, moi, je pourrais pas, quoi. Autant bourrer à 7h du matin, Gangnam Style, ça pourrait encore, je pourrais encore danser, mais là, Rihanna, quoi. Même, non, je vois même
comme
pas dans quelles circonstances c'est possible.
La confession. Quant à Isaline, elle ne l'a tout simplement pas écouté.
Non, mais là, j'ai l'impression que je pourrais en parler pendant une demi-heure, hein, avec tous vos arguments.
C'était donc le dernier album de Rihanna, Unapologetic. Némésis, c'est le nouveau roman de Philip Roth, le roi de la littérature américaine contemporaine. C'est peut-être son tout dernier livre, c'est ce qu'il a dit aux Un Rock et son éditeur a confirmé. Némésis se déroule à Newark dans l'état du New Jersey, la fameuse ville qui sert aujourd'hui essentiellement à faire atterrir les avions des gens qui veulent visiter New York. À l'été 1944, c'était aussi une ville à forte population juive sur laquelle une chaleur accablante s'était abattue. Dans cette étuve suffocante, une maladie semait le trouble et la mort, la polio. On ne savait ni comment s'en débarrasser, ni comment la prévenir. Au cœur de la tourmente, un prof de sport, un homme droit qui voit ses élèves succomber les uns après les autres et la population se retourner peu à peu contre lui. Ce Némésis est un livre vraiment intéressant, essentiellement pour sa peinture d'une société américaine juive des années 40 qu'on connaît, en tout cas moi, finalement très peu, mais il est sans doute un peu moins riche, un peu moins dense humainement qu'un chef-d'œuvre comme La Tâche. Hein. Il ne deviendra à mon avis sans doute pas un classique comme certains de ses autres romans. Laurent Houbrex, quel est ton avis à propos de ce bouquin?
Mais moi, je n'avais jamais lu du Philip Roth, donc je pense que je m'étais mis un peu la pression, je lui avais mis un peu la pression, je ne sais pas. Donc j'ai passé, un bon moment, je suis assez rentré dans le bouquin. Après, et ça, je l'ai compris par la suite, en fait, Némésis fait partie, si j'ai bien suivi, d'une série de nouvelles. Je mets entre guillemets parce que le livre ici fait quand même 240 pages, je pense. Mais j'ai eu un peu la même frustration que je peux avoir avec les nouvelles en général. C'est-à-dire que j'arrive au bout et puis je me demande un peu, à quoi bon, quoi. Je me suis retrouvé un peu avec cette frustration-là. Après, il arrive malgré tout à brasser des thèmes assez fondamentaux. Enfin, c'est un livre assez marquant sur la culpabilité du personnage principal qui, on ne doit pas forcément développer, mais... qui pense avoir transmis la polio au gamin de la plaine de jeu qu'il dirige. C'est un bouquin qui parle aussi de la peur. Et puis, moi, ce qui m'a aussi parfois freiné, c'est que ça se passe dans les années 40. Les personnages sont tous dans une espèce de bloc comme ça, très. Ils ont tous des dialogues très. Parfois presque empruntés. Ce qui, moi, m'a parfois tenu à distance. Voilà.
On passe la main à Isaline, qui est la chef des pages bouquins de Focus.
Écoutez, moi, je trouve que c'est
la vie de l'érudite.
Un roman incroyable de maîtrise, en fait. C'est un livre dans lequel on rentre tellement facilement, qui semble couler lui-même, qui est super bien construit. Je trouve qu'il y a des tas d'échos très, très brillants. Il y a d'abord cette ville de New York dans laquelle on se resserre un peu sur la communauté juive. Une ville, tu l'as dit, Myriam, cuvette, entourée de marécages, comme ça. Donc, géographiquement, ça provoque des étés absolument étouffants. Il y a un personnage, à un moment, qui dit, on dirait que les thermomètres sont bloqués. Et il y a vraiment comme ça cette chape sur le livre, et tout le roman étouffe sous cette chaleur implacable, verticale, qui cogne les êtres. Et ce qui est intéressant, c'est que cette ville étouffe sur laquelle il y a encore une épidémie qui va se refermer sur elle. Une épidémie absolument terrible, symbolisée par des poumons d'acier, hein, par une paralysie respiratoire. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort dans cette ville doublement prise au piège, quelque part doublement cadenassée, quelque chose de terriblement suffocant. Et je trouve que Philippe Roth est très très fort parce que, à partir, disons, de la moitié du livre, on sent comme ça une angoisse assez sourde monter dans la conscience de Bucky, parce que tout d'abord la narration est assumée par une voix qui est assez mystérieuse. En fait, on ne sait pas trop qui raconte le livre, un truc un peu diffus comme ça, et puis on entre dans ces litanies répétitives que Bucky Cantor se répète à lui-même pour essayer de justifier ses actes, essayer de retrouver cette espèce de bonne conscience qui l'a toujours guidé, cette espèce de responsabilité de lui-même, et on sent qu'on va insensiblement voir quelque chose de très dramatique, et à la fois c'est très diffus. Je trouve que là, quelque chose, Philippe Roth donne une sorte d'équivalent littéraire à ce que pouvait être la polio à l'époque, cette espèce de danger qui pouvait venir de nulle part et de partout à la fois. Donc j'ai trouvé ça assez brillant littérairement. C'est finalement un roman assez désenchanté, quoi, sans morale, sans réponse. Philippe Roth ne croit pas à la psychanalyse, il n'y a jamais cru. Mais il croit par contre à cette espèce de principe suprême qui gouvernerait les existences selon l'idée de la chance ou de la malchance. Alors il dit, parfois on a de la chance, parfois on n'en a pas. Toute biographie relève du hasard, de la tyrannie, de la contingence. Et je trouve que c'est une relecture comme ça de toute l'histoire d'un individu, de toute l'histoire en fait aussi, qui est très puissante, très, très, très clairvoyante, très lucide. Et dans cette espèce d'annonce que Philippe Roth a faite de dire qu'il arrêtait d'écrire, je pense que c'est une sorte de continuité de ça, c'est-à-dire que dans ce silence, qui est quand même assez, assez beau, oui, on n'aura plus de nouvelles livraisons de Philippe Roth en librairie, mais quelque part, ça ne fait que continuer ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire cet être incroyablement clairvoyant. Et je trouve ça assez bouleversant.
Surtout que les arguments qu'il a donné, les raisons pour lesquelles il arrêtait, sont quand même à souligner, parce qu'il a reconnu qu'il n'avait plus l'inspiration, qu'il n'avait plus la niaque, qu'il n'y arrivait plus, qu'écrire était une souffrance. Enfin, voilà, ce sont des choses quand même, surtout de la part d'un écrivain qui est comme ça réputé, qui ose avouer ce genre de choses, chapeau, quoi. Je trouve ça assez phénoménal.
Oui, c'est une belle manière de continuer à parler, en fait, dans le silence qui va s'imposer après. Et oui, il disait, écrire, c'est avoir toujours tort. C'est toujours écrire la mauvaise phrase, les mauvais mots, toujours chercher, je trouve ça assez
c'est
beau comme définition. Et je trouve que, oui, finalement, la grande idée du livre, c'est à partir de quel moment une tragédie collective devient une tragédie personnelle. En fait, comment est-ce qu'on peut résister ou pas individuellement à une tragédie collective? Et ça aussi, pareil, c'est une relecture super brillante de ce qui est sans doute un marronnier de la littérature américaine, quoi, l'histoire de la chute individuelle, l'histoire de la destruction. Voilà, et à part ça, je trouve que, un peu anecdotiquement, mais il y a un côté, moi, qui m'a super emballée, c'est de replonger comme ça dans une ville américaine de province dans les années 40. On a toute cette ambiance, il y a des pages qui sont des instantanés magnifiques sur ce qu'est être un adolescent dans une ville comme ça de province, le soir tombant pendant l'été, avec toute cette ambiance de, voilà, des gens qui sont à bicyclette sur les perrons des maisons, en train de siroter des limonades glacées, des glaces à la crème fouettée. Enfin, il y a un côté comme ça. On a vraiment toute cette ambiance, cette ville qui a été délaissée par tous ces hommes partis au combat aussi. Je trouve qu'il y a là quelque chose de très, très beau. Voilà.
Julien, tu l'as lu? Non.
Non.
Tu l'as pas lu?
Non,
d'accord. Bravo.
Encore,
c'est vraiment bien. Tu as préféré écouter Rihanna que lire le livre.
Ça va plus vite.
Non, mais on voit où sont tes priorités. Ouais. Laura Raphaël.
Oui, ben, j'abonde dans le sens de tout ce qui a été dit. Ce qu'il y a, c'est que Philip Roth a une écriture très élégante, très fluide, qui contraste avec la noirceur du propos. Et c'est ça qui est vraiment intéressant chez lui. Il est un peu un représentant la littérature postmoderne, un des créateurs aussi de l'autofiction. Et il arrive à emballer les choses, de rendre très, très physique le rendu des univers qu'il décrit, mais à l'intérieur de ça, le propos est complètement désenchanté. Et il se réfère très souvent à la mythologie, hein. Ce sont toujours des grandes paraboles chez lui qui reviennent, d'où le titre d'ailleurs Némésis, qui est la déesse de la vengeance, qui fait partie d'un cycle dans lequel plusieurs livres s'inscrivent. Et donc il brasse des grandes thématiques comme ça un peu universelles, la chute, la culpabilité, la question de Dieu, puisque en effet il croit en être supérieur, mais qui dirigerait plus le hasard, mais pas la croyance au sens de la foi, parce que là il a quelques pages assez fortes et très critiques par rapport à ça, et donc il brasse ça depuis 40 ans, et il le fait, je trouve, avec énormément d'élégance et de classe. Et ici je trouve que le roman m'a fait un peu penser à La Peste de Camus, puisque c'est aussi un fléau, une maladie qui oblige les hommes à se positionner, à se mesurer à leurs propres limites, puisqu'ici c'est quand même un personnage qui en a bavé dans son enfance, une enfance difficile, mais qui va, par ses qualités physiques et parce que son grand-père lui a transmis comme valeur morale, va s'élever à un niveau quasiment inespéré pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va être saisi de questions profondes par rapport à ses propres limites et par rapport à son courage ou pas. Et donc il va être pris dans un emballement de réflexion que je trouve assez trépidante et qui renvoie à des choses qui nous dépassent. Mais Ross a une manière d'amener ça, de manière de passer de l'intime au collectif et vice-versa avec beaucoup, beaucoup d'adresse.
Combien sur 10 ?
7 sur 10.
L'autre, Laurent ?
6.
Isaline ?
8.
8 aussi pour moi. C'était donc Némésis de Philip Roth. Enfin, on va terminer avec une série qui nous plonge une fois encore dans le passé, dans les années 50. Cette fois, Dee Hauer, c'est le nom de la série, et aussi celui de l'émission de télévision dans laquelle elle nous plonge, une émission d'info de la BBC, produite par une jeune femme déterminée, belle, présentée par un homme trompistonné, Hector, et préparée par un jeune loup du journalisme, Freddy. Dee Hauer raconte l'époque, évidemment, mais aussi le journalisme qui n'a pas foncièrement changé en 50 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sa deuxième saison écoule actuellement ses épisodes sur la BBC, oui, parce que c'est une série anglaise, c'est bien de le signaler. Moi je suis très très fan de cette série que je trouve absolument délicieuse, avec ses accents british, ses personnages très typés, sa reconstitution d'époque au cordeau et son esthétique ultra ultra léchée. J'ai été particulièrement impressionnée par le travail sur la lumière qui a été fait sur Dee Hauer, où chaque scène pourrait être je sais pas moi une toile de Hopper, si Hopper avait été anglais. Isaline, je pense que tu as aimé.
Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est marrant que tu parles de Hopper, parce que moi aussi c'est vraiment l'image que j'avais. Il y a ce tableau là qui s'appelle Conférence nocturne, je sais pas si vous voyez, avec deux hommes qui parlent avec une femme comme ça dans un bureau déserté la nuit, avec une lumière assez verticale. On sent qu'il y a un peu un climat comme ça de collusion, d'espionnage. Ils devraient pas être là, on se demande un peu ce qui se passe. En fait, ça pourrait être la série, ce tableau là en fait. Moi j'ai adoré cette espèce d'ambiance, décor triste aux couleurs sourdes, un peu passées. On est dans un ballet comme ça de gris, de beige, de noir, avec quelques touches de rouge. On est dans cette ambiance de bureau comme ça, détaillée en métal, de classeur gris. Il y a un dress code quand même assez pointu, de costumes en flanelle, de chapeaux de feutre, de gomina, de chandail à carreaux, qui est super monotone et à la fois vraiment très beau. Si on ajoute à ça la pluie quasiment incessante, évidemment, puisqu'on est à Londres, la lumière indirecte, c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça qui dit beaucoup ce climat de paranoïa dans lequel baigne complètement la série. Je dirais que ouais, c'est assez brillant, parce qu'il y a une sorte de... Enfin, il arrive à donner du glamour à ce climat de paranoïa en fait dans la série. Puis les personnages sont absolument super attachants, quoi. Freddy Lyon, qui est quand même le pivot de la série, comme
Freddy
ça.
Qui est joué par l'acteur qui joue Q dans le dernier James Bond. monde.
Ah, tiens, j'avais parlé.
Ah, ouais.
Ouais, mais qui est vraiment fabuleux, Ben Whishaw. Enfin, je trouve ce type vraiment hallucinant. Il a commencé sa carrière en 99 chez Michel Blanc. Hein. C'est assez fou, hein, dans Mauvais Espace. Et donc, il a joué d'autres trucs aussi. Enfin, le parfum, on a lu le parfum à l'école. Ouais. Vous avez lu le parfum. Ben, c'est lui qui joue Jean-Baptiste Grenouille dans l'adaptation ciné du parfum. Il a joué aussi Keith Richards dans Stone, un biopic sur les Stones. Il joue Arthur Rimbaud Bob Dylan dans I'm Not There de Todd Haynes. Quoi. Ce type est vraiment brillant. Quoi. Je le trouve vraiment fascinant et extraordinaire.
Dans en fait, moi je le reconnais jamais d'un truc à l'autre.
Mais oui, mais moi non plus. Je découvre.
Bah, oui, enfin vraiment, je trouve que ce personnage-là est quand même assez brillamment mené parce qu'il est vraiment le pivot en fait entre toutes les intrigues qui sont habilement croisées dans la série. Il y a une enquête policière qui mène, et puis de l'autre, évidemment, il est une partie intégrante de la création de cette émission d'info assez pionnière pour l'époque. Alors c'est un personnage quand même génial qui se croit quand même constamment dans un roman de Ian Fleming. C'est toujours le roman qui est comme ça sur son bureau, dans cette idée un peu que tout le monde est surveillé un jour ou l'autre dans sa carrière. Et puis j'aime beaucoup aussi le personnage de Belle Rowley, la productrice de l'émission, dont on dit d'elle qu'elle travaille sans doute deux fois plus que les hommes, mais qu'aucun homme n'est à moitié aussi bon qu'elle. J'adore cette idée. Et puis à travers elle, comme ça, qui veut être ni épouse, ni salope, on a un peu toute la... Voilà, toute l'évolution des rapports hommes-femmes, on sent bien qu'ils hésitent encore très fort entre l'étiquette et la libération sexuelle. Bon, c'est quand même une série très, très bavarde, mais j'aime beaucoup. Et puis, oui, c'est vrai, une belle réflexion aussi sur le journalisme, quoi. Une époque où la censure est de tous les instants, puisqu'il y avait cette règle quand même assez incroyable en Grande-Bretagne où les informations gouvernementales sont sous embargo pendant 14 jours.
On ne peut pas les dévoiler au public.
On ne peut pas les analyser, pas les commenter. Et donc, je trouve que toute la série repose là-dessus. Quoi, comment est-ce que les personnages vont pouvoir manipuler, détourner un petit peu l'information pour quand même contourner les interdits.
C'est intéressant comme ça aussi, un moment où la BBC est quand même mal en point, oui. Où il y a eu l'affaire News of the World.
Et qu'elle parle d'elle finalement dans cette série, je crois. Je savais, Laurent, que tu allais rebondir là-dessus.
Tout à fait, comme mon micro, Dirk.
Non, mais ça va, ton micro se porte bien. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent?
C'est marrant parce qu'on a souvent comparé cette série à Mad Men. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'elle se rapprochait d'un truc comme Homeland, par exemple, avec le côté intrigue qui est c'est le cœur vraiment de la série, quoi. C'est une intrigue d'espionnage avec tout un contexte historique derrière, donc on est vraiment dans ce truc là avec des cliffhangers, des rebondissements. On est vraiment dans une... ce qui est chouette, c'est que c'est une série anglaise, donc il y a un côté il y a la même paranoïa, mais elle est vue avec peut-être plus de second degré, plus d'humour. Il y a la touche british qui est vraiment super agréable à suivre. Les dialogues sont assez piquants. Donc il y a ce côté-là qui fait... Et alors, moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que j'ai l'impression que maintenant, dès qu'une série se passe dans les années 50, tout le monde doit fumer.
Et picoler, est-ce que ça fume? Je regrette, c'est le seul côté qui me donne envie de vivre dans les années 50, ça fume et ça picole.
Dès qu'il rentre dans un bureau, il faut boire un whisky. Non, ça, c'est vrai que c'est très mal.
Mais ça en devient presque cliché, je trouve, ou je sais pas si c'est une volonté de revenir à une époque moins politiquement correcte.
Dans Populaire aussi, ça fume beaucoup, oui.
C'est le seul moyen de montrer une cigarette à l'écran. Il faut passer par une fiction qui se passe dans les années 50.
Et bon, Populaire, je pense que c'est 59. Ici, ça se passe en 56. Je parlais tantôt, je disais le traitement de la condition de la femme et tout ça. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, Isaline. Enfin, c'est vraiment... on peut voir ce The Hour vraiment à 3 ou 4 niveaux différents. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens et des gens qui n'ont pas spécialement du tout les mêmes goûts. Et donc, ce portrait de femme qui doit imposé dans un univers d'hommes, l'histoire d'espionnage, je me retrouve juste peut-être un petit peu moins dans le triangle amoureux, qui à un moment me pompe, mais tout le reste, je trouve, est brillant.
Il n'est pas lourdement appuyé non plus, le triangle amoureux.
Non,
ça. Et puis dans la seconde saison, on n'en parle quasi plus. Donc,
merci voilà, du tuyau.
Ça devra te rassurer. Laurent Raphaël.
Oui, moi j'ai vraiment adoré, quoi. Je trouve que ça démontre une fois de plus que la complexité est quand même souvent le garant de la qualité d'une série comme d'une fiction en général. Et ici, les producteurs et les réalisateurs n'ont pas eu peur de parler notamment du climat géopolitique, puisqu'on parle de la nationalisation du canal de Suez. Donc il y a une toile de fond qui est relativement complexe, l'intrigue l'est aussi, avec cette parano. avec ses dialogues complètement déjantés, enfin enlevés en termes d'humour. Ça m'a fait penser un peu à du Sacha Guitry à la sauce anglaise. Je rigolais tout seul en écoutant certains passages, mm-hmm. et notamment de Ben Whishaw qui balance des vannes à tout va comme ça et qui est souvent très 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 juste. Voilà, donc je trouve qu'il y a tous les ingrédients. C'est à la fois rythmé, l'esthétique est magnifique et je voudrais aussi souligner les qualités de la bande-son avec ce générique jazzy,
oui.
qui est vraiment prenant. Dès les premières images, on est emballé avec des incrustations très graphiques comme ça d'époque, mais cette petite musique jazzy est formidable, quoi. Elle nous met tout de suite dans l'ambiance et elle accompagne très bien la série.
Waouh! Pour quelqu'un qui n'aime pas les séries, c'est quand même
très
beau.
Oui, mais là, je suis converti, mais franchement, celle-ci, je trouve qu'elle est, elle est loin au-dessus de tout ce que j'ai vu cette année.
Oui, je trouve.
C'est en 6 épisodes seulement.
Mais oui. Est-ce qu'il faut le regretter? Je ne sais pas.
6 épisodes pour la deuxième saison?
Aussi,
et ce sera Time après?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais
on
va
écrire au producteur pour qu'il continue un petit peu.
Il y a un tel budget là-dedans que voilà, peut-être l'étaler trop longtemps, ça mènerait à la faillite.
Le fait que la BBC, puisque l'émission dont on parle dans la série, c'est à la BBC, en fait, ça fait écho au problème, au déboire de la BBC actuelle.
Oui, ce que l'on disait.
Donc, ça risque de les gêner peut-être un peu trop longtemps de continuer à se flageller comme ça. C'est peut-être pas de bonne
idée. En tout cas, je trouve que c'est super excitant d'assister à ce moment où on voit l'émergence du poids de la télévision, des images. Je crois qu'il y a un moment un personnage qui dit au présentateur j'adore votre émission, mais quelque part vous rendez le monde insupportablement réel en fait. Et c'est quand même assez passionnant d'assister à la naissance de ça et à la naissance de ce contre-pouvoir de l'information.
Et Dominique West, on en dit un mot rapidement, donc qui jouait dans The Wire, hein, c'était le héros de The Wire.
Qui est beaucoup plus policé ici, effectivement.
C'est un personnage un peu con ici, c'est pistonné. Sans réel grand talent, mais
c'est
qui arrive quand même.
C'est quand même un héros de guerre, non? Il a au moins 2 médailles à son...
Il a toujours un peu été pistonné.
C'est tout ce qu'il a, mais c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'il joue bien ce personnage un peu privilégié qui est arrivé là après s'être bien amusé dans la vie, avoir eu un parcours universitaire qui était en dessous des espérances, mais qui s'en est toujours sorti parce qu'il a une belle gueule. Et je trouve qu'il n'est pas dupe, quoi. C'est intéressant. Il pourrait être au premier degré, mais on sent lui-même est conscient de ses propres limites, ce qui fait qu'il s'élève déjà à un niveau supérieur qui va sans doute être intéressant pour la suite de la série aussi.
Il n'est pas insupportable, pardon. Il n'est pas insupportable du tout alors qu'il devrait l'être.
Oui, tout à fait.
Je trouve les personnages secondaires en plus absolument extraordinaires. Il y a Clarence là qui est quand même super, McLean. Et alors un personnage que j'adore, c'est Lix là, cette femme qui est complètement libérée, accro au boulot, accro qui dort, boit, baise au boulot. Enfin, elle est quand même
elle est formidable.
Ouais.
Moi, je mettrais un bon gros 8 tendant vers le 9.
Ouais, moi aussi, pareil.
Pareil.
8.
8.
Waouh! Ah, mais c'est les meilleures notes qu'on donne depuis le début de cette émission.
Bah, ça le vaut bien.
Pour Die Hour, une série de la BBC. Enfin, on va clôturer cette émission comme à chaque fois avec des coups de cœur, mais aujourd'hui, imminence de Noël oblige avec des idées cadeaux, puisque dans cette société consumériste, on s'offre des cadeaux manufacturés à Noël. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Moi, je vous conseille en vitesse le coffret DVD des 10 ans de Tout ça ne nous rendra pas le Congo, l'émission culte de la RTBF. 2 DVD sur lesquels on retrouve une poignée de classiques comme Cucker et les garçons, avec cette mère de famille accro au jeu Second Life. Il y a évidemment aussi Chantal, femme du monde désespérée, qui organise une expo du peintre dont elle était la muse de son vivant. Il y a Au bordel ce soir avec son macro moustachu et surtout il y a mon petit préféré. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Le retour de l'oncle belge, un film signé Philippe Dutilleul qui suit l'entraînement de la nouvelle armée réunifiée congolaise par l'armée belge. Joli festival de bras cassés avec des bons gros relents colonialistes. Un vrai petit bijou de télévision. Donc le coffret DVD des 10 ans de Tout ça ne nous rendra pas le Congo, publié par la RTBF. Laurent, un cadeau.
Mais moi, c'est un cadeau très cher, puisque je vais inviter les gens à aller à Paris pour voir l'expo d'Edouard Hopper. C'est jusqu'à la mi-janvier, donc ils ont encore un peu de temps, mais voilà, je crois que c'est une des rares occasions de voir ces peintures en live. Mm-hmm. Et ce qui m'a frappé, c'est les tonalités, les couleurs qui sont
parce
très,
qu'évidemment, en tant que rédacteur-chef, tu as de l'argent, donc tu as été à Paris pour la voir.
Évidemment, je me faisais un devoir d'y aller, voir de mes propres yeux ce peintre iconique de l'Amérique. Et voilà, il n'y a rien à faire, mais voir ces peintures en vrai, c'est une autre dimension. On a beau s'abîmer les yeux sur ces reproductions. Voilà, c'est une révélation, une deuxième révélation. Et j'invite tout le monde à y aller.
D'accord. Laurent Brex, un peu moins cher sans doute.
Certes. Moi, je passe un message à tous mes proches qui m'écoutent. On a parlé du bouquin de David Simon, c'est ça, sur Baltimore. Donc, le scénariste de Wire. Donc, il y a des journalistes qui ont fait une enquête sur Baltimore pendant un an, c'est ça, si je me souviens bien, et qui donc a servi de base à la série. Et le bouquin est sorti chez Sonatine. Donc, si quelqu'un cherche encore un cadeau à me faire
c'est
pour Noël,
c'est une sacrée brique.
Ouais, c'est une brique.
Et c'est cher. C'est pour ça que tu demandes à tes proches que tu ne te l'offres pas. Bah oui, toi, tu n'as pas la chance d'être cher. Julien.
Ouais, moi, je cherchais aussi un cadeau pas cher. Et donc, Atlantic Soul Legends, c'est un coffret, c'est 40 boules pour 20 disques. Mm-hmm. Et donc, on y retrouve des albums Lady Soul d'Aretha Franklin, Otis Blue, d'Otis Redding, mais aussi des trucs beaucoup plus rares, parfois épuisés, parfois ils ne sont même pas sortis, comme The Show Must Go On de Sam Dees. Là, un peu de soul.
C'est dingue, ça fait 40 euros pour 20 CD.
40 boules pour un CD.
Wow. Tout le monde doit avoir un CD d'Otis Redding dans sa discographie.
Ouais, surtout pour emballer.
Hopper, c'est une centaine de tableaux pour une dizaine d'euros. Hein, donc, le rendement est aussi assuré.
Oui. Tu ne les ramènes pas chez toi.
Ouais, dans ta mémoire.
Et les souvenirs plein la tête. Voilà. Isaline.
Bah, qui dit fête dit champagne. Donc,
à boire.
J'ai pensé à vous proposer un livre qui a été d'ailleurs consacré meilleur livre de l'année par le New York Times, qui est sorti chez Sonatine et qui s'appelle 5e Avenue, 5h du matin. Alors, si je vous dis ça, évidemment, vous pensez à cette scène absolument mythique.
Bien sûr. Vous me regardez. Je ne vois pas de quoi tu parles.
Mais... Le diamant sur canapé. Ce film de Blake Edwards de 1961. Et donc, ce livre, c'est vraiment comment le livre de Truman Capote, qui était quand même réputé inadaptable, qui s'appelait Breakfast at Tiffany, est devenu ce film absolument culte. Et donc, voilà, le Sam Wesson a fait vraiment un travail sur toute la jeunesse du long métrage, avec des plans de New York, des secrets de tournage, des photos inédites, des anecdotes. Et aussi, évidemment, la jeunesse de cette petite robe noire portée par Audrey Hepburn, Givenchy, qui est devenue carrément une icône. Donc, c'est une chronique vraiment passionnante, glamour et un peu rebelle aussi. Et c'est chez Sonatine et c'est 25 euros. Donc,
Et ben voilà, hein, Focus Store, quatrième du nom, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés. Lisez-nous maintenant, c'est un ordre, dans le magazine Focus Gif, chaque semaine avec le Vif Express. À très bientôt pour une émission. On évoquera notamment l'album de Crystal Castles, la série Borgen, la sortie en poche de Claustria de Régis Geoffrey et le film Beast of the Southern Wild. Rendez-vous ici même le 24 décembre. Et comme dirait Feu Carlos, big bisous. Salut tout le monde.
Salut à tous.
À bientôt. Ciao.